mensure aiguë de la femme de ménage résonnait au moins jusqu'au parvis de leur église. Le pick-up de Rivera est passé sur Juan Diego. On l'avait amené ici dans l'espoir qu'il y ait un miracle, mais nos deux vierges n'ont rien voulu savoir. Ils vont chez le docteur Vargas, je présume, dit le père Alfonso. Mais que fait ce gringo avec eux? Les deux prêtres fronçaient leur nez délicat et naturellement porté à la réprobation, non seulement devant le pick-up des ordures, mais devant ce gringo en chemise montgolfière émaillée de perroquets hawaïens. Ne me dites pas que Rivera a renversé un touriste par-dessus le marché, soupira le père Octavio. Cet homme est celui que nous attendions tous, leur répondit frère Pépé avec un sourire espiègle, notre nouveau professeur. Il dut se mordre la langue pour ne pas ajouter que ce seigneur Eduardo était un faiseur de miracles, mais il parvint à se taire. Les deux vieux prêtres verraient bien par eux-mêmes. Il aborda donc la question de manière à provoquer ses conservateurs invétérés, mais sur un mode dégagé. « Señor Eduardo es bastante milagroso. »« Señor Eduardo ?» répéta le père Octavio. « Miraculeux !» s'exclama le père Alfonso, non sans écœurement. Ce n'était pas un mot qu'il employait à tort et à travers. « vous verrez !» répondit Pépé benoîtement. « Il n'a pas d'autre chemise à se mettre, cet Américain ?» s'enquit le père Octavio. « Des chemises à sa taille, » précisa le père Alfonso. « Il en a une collection et elles sont toutes hawaïennes, » repartit Pépé. « Et elles sont toutes trop grandes pour lui parce qu'il a beaucoup maigri. »«
Pourquoi ?
Il n'est pas à l'article de la mort ?» demanda le père Octavio. Cet amaigrissement paraissait d'aussi mauvais goût aux deux vieux prêtres que la chemise multicolore. Ils étaient en effet l'un comme l'autre presque aussi rondouillards que Pépé.
« Pas que je sache, » répondit Pépé, en tentant de réprimer son sourire espiègle. « Il me paraît même en pleine santé, et il a hâte de se rendre utile. »«
Utile !» répéta le père Octavio comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. « Que c'est donc prosaïque !»«
Dieu nous en préserve, » ponctua le père Alfonso.
« Je vais les suivre, » expliqua Pépé, qui se dirigea en se dandinant vers la Volkswagen rouge. « En cas de pépin. »
« Dieu nous en préserve, » répéta le père Octavio.
« On peut compter sur les Américains pour se rendre utile, » dit le père Alfonso.
Le pick-up démarra, et frère Pépé le suivit dans la circulation. Devant lui, il voyait le petit visage de Juan Diego, entre les menottes protectrices de sa sœur. Diablo avait repris son poste, patte posée sur la boîte à outils. Le vent rabattait en arrière ses oreilles dissymétriques, celle qui était normale et celle où manquait un triangle au bord dentelé. Mais ce fut Edouard Bancho qui capta l'attention de frère Pépé.
« Regarde-le, » intima Lupe à Juan Diego. « Le gringo, l'homme au perroquet. »
Ce que frère Pépé voyait surtout, c'était que cet homme, qui ne s'était jamais senti chez lui nulle part, venait enfin de trouver sa place. Il ne savait pas s'il s'en réjouissait ou s'il s'en inquiétait, l'un n'empêchant pas l'autre. Ce seigneur Eduardo avait un but. Ainsi pensait Juan Diego dans son rêve, car c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on devine que tout a changé, qu'on est à un tournant de sa vie.
« Allô ?» dit une voix de jeune femme.
Juan Diego s'aperçut qu'il tenait le téléphone à la main.
« Allô ?» répondit-il tiré d'un profond sommeil. Il venait de prendre conscience que son sexe en érection était traversé de frémissements.
« Salut, c'est moi, Dorothy. Vous êtes tout seul, j'espère. Ma mère n'est pas avec vous. »
Chapitre 8. Deux préservatifs. Que faut-il croire des rêves d'un auteur de roman ? De toute évidence, dans les siens, Juan Diego s'autorisait à interpréter les pensées et les sentiments de frère Pépé. Mais qui donc interprétait ses propres rêves? Il aurait eu plaisir à évoquer ce chapitre, ainsi que quelques autres, liés à la résurgence de sa vie onirique, mais le moment lui paraissait mal choisi. Dorothy restait nue, jouait avec son sexe.
Il avait remarqué qu'elle apportait à cette activité la même attention scrupuleuse qu'à sa manipulation du téléphone mobile et de l'ordinateur portable. Pour sa part, il n'était guère porté au fantasme masculin, même si la fiction était son métier.
« D'après moi, tu es en état de recommencer. Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans pas longtemps. »«
Regarde-moi ce petit mec. »
Elle n'avait manifesté aucune timidité la première fois, du reste. Juan Diego avait passé l'âge de faire une fixette sur son sexe, mais Dorothy ne s'en était pas privée, d'entrée de jeu.
« On a zappé les préliminaires ?» se demandait-il.
Il avait tenté d'expliquer à Dorothy la glorification de Notre-Dame de Guadalupe par les Mexicains. Blottis tous deux dans la pénombre de son lit, ils entendaient le bruit de la radio en sourdine, comme parvenant d'une planète lointaine. Et sa partenaire délurée avait rejeté les couvertures et considérait son érection bourrée d'adrénaline et exacerbée par le Viagra.
Le problème a commencé avec Cortés, conquérant de l'Empire aztèque en 1521. Il était très catholique.
Cortés, expliquait Juan Diego à la jeune femme dont il sentait les joues chaudes contre son ventre, tandis qu'elle contemplait son sexe.
Or, Cortés venait d'Estramadure, et on racontait que la Guadalupe de Extremadura, je veux dire la statue de la Vierge, avait été sculptée par Saint Luc l'évangéliste lui-même. On l'avait découverte au XIVe siècle, un jour que la Vierge avait fait une de ses apparitions inopinées, tu vois le genre, devant un humble berger. Elle lui avait ordonné de creuser sur le lieu même, et il avait découvert la statue.
« Tu n'as pas un sexe de vieux, il est vif comme un gardon, ce petit mec !»
commenta Dorothy, sans rapport immédiat avec le sujet.
Telle fut son entrée en matière, car elle n'était pas femme à perdre son temps. Il fit de son mieux pour l'ignorer.
La Guadalupe d'Estramadure avait la peau sombre, comme la majorité des Mexicains, fit remarquer Juan Diego à Dorothy, non sans se laisser troubler par le fait qu'il parlait à sa nuque et à sa chevelure brune. Cette vierge-là était l'artefact idoine pour les missionnaires prosélytes qui avaient accompagné Cortés au Mexique, la parfaite icône pour convertir les indigènes au christianisme.
« répondit Dorothy en glissant le sexe de Juan Diego dans sa bouche.
Le romancier n'était pas et n'avait jamais été sûr de lui en matière de sexe. Ces derniers temps, en dehors des plaisirs solitaires expérimentés grâce au Viagra, il n'avait eu aucun rapport charnel. Néanmoins, il réussit à réagir avec détachement aux entreprises de Dorothy et continua à parler.
Ça se passait 10 ans après la conquête, sur une colline aux environs de Mexico, précisa-t-il à la jeune femme en train de le sucer.
« À Tepeyac, » articula-t-elle soigneusement avant de se remettre à l'ouvrage.
Il fut sidéré qu'une jeune personne aussi peu bas-bleue connaisse le nom du lieu, mais il s'efforça néanmoins de garder la nonchalance qu'il affichait quant à la pipe en cours.
« C'était un matin de décembre 1531, » reprit-il.
Il sentit la pointe de ses dents sur son sexe, tandis que, sans même s'arrêter pour le sortir de sa bouche, elle ajoutait impulsivement
« Dans l'Empire d'Espagne, c'était la fête de l'Immaculée Conception. La date ne devait donc rien au hasard, hein ?»«
Oui, quoique... » Juan Diego s'interrompit. À présent, Dorothy s'était mise à le sucer avec une ardeur présageant qu'elle ne se donnerait même plus la peine de ponctuer son récit de quelques mises au point.
« Le paysan Juan Diego, dont je porte le nom... » « A eu une apparition, » reprit vaillamment le romancier. « Il a vu une jeune fille de 15 ou 16 ans dans un halo de lumière, et quand elle lui a adressé la parole, il a compris, c'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire, qu'elle était la Vierge Marie, ou qu'elle lui ressemblait trait pour trait. Or, elle voulait qu'on lui construise une église, rien que ça, une église qui lui soit dédiée sur le site de son apparition. »
À ces mots, et sans doute pour manifester son incrédulité, Dorothy émit un grognement, voire un borborygme peu compromettant. Selon toute probabilité, elle connaissait l'histoire, et l'idée que la Vierge Marie ou son alter ego apparaisse à un pauvre paysan adolescent et lui enjoigne de lui construire un sanctuaire, lui inspirait cette réponse non verbale, chargée d'une pointe de sarcasme, pour ne pas dire plus.
Que pouvait-il faire, ce malheureux ? Demanda Juan Diego, question rhétorique s'il en fut et qui fit éructer Dorothy.
Juan Diego, l'écrivain, pas le paysan, tressaillit.
Il redoutait un nouveau coup de dent, mais cette douleur lui fut épargnée temporairement. Là-dessus,